Morin.
Le sentez-vous?
Live.
Avec Dominique Morin.
C'est beau à voir.
Radio X.
Da-wa. Je vous le dis, là, ce matin, c'est du costaud. Je vois pas d'accrochage, je vois pas d'incident, je vois pas de véhicule en panne, il n'y a pas de sortie de route, il n'y a personne qui a fait un flat. Ou... Mais il y a du monde à la tête des ponts. C'est hallucinant ce matin à quel point il y a du monde. On commence à partir de la route Lagueux pour les gens qui sont sur la 20 direction S. À partir de Beaulieu pour la 73, à partir de la sortie chemin des îles pour les gens qui arrivent de la 20 direction Ouest, c'est très, très costaud. Là, la tête des ponts. Ce matin, c'est rouge 20. Même chose pour la route 116 dans le coin de Saint-Rémy-Lameter, la 132 à Saint-Nicolas et à Saint-Romuald, la 175 à Charny. Pour vrai, partout, c'est rouge du côté de la rive sud. Sur la rive nord, Charest, direction centre-ville, c'est à partir de Saint-Augustin où c'est au ralenti. Ça reste comme ça jusqu'au centre-ville. Ralenti également sur Henri IV, direction sud, à partir de Industriel. C'est à partir de Georges Muir où c'est... très, très lourd sur Laurentienne pour descendre également vers direction sud, en gros. Donc oui, c'est compliqué ce matin. 88-670-9098, peu importe ce que vous voyez, pour nous dire ce que vous y voyez. Il n'y a pas de raccourci pour sauver du temps, mais il y a une façon simple de sauver de l'argent. Combinez vos assurances auto et habitation chez Bel Air et économisez d'oom.
Il y a Mathieu Bocoté dans quelques secondes. Par la suite, Stéphane Lachance qui va répondre au maire de Québec. Et par la suite, il y aura bien entendu le one-two punch avec Jean-Claude. Mais d'abord, on va aller tout de suite en ligne. L'as-tu le thème? Non? Oui, non?
Ben, c'est parce que moi, sur ma feuille, c'est marqué...
Oui, mais Nick a dit Bocoté est en ligne. Mathieu est en ligne. Donc,
Oui, bonjour.
Salut Mathieu, comment ça va? Je le sais que t'es dans le rush. T'es parisien. Est-ce que tu es dans le buzz de Céline, mon cher?
Plutôt dans le buzz de la présidentielle. Mais je sais qu'il y a un buzz de Céline ici. C'est peut-être pas exactement ma religion, mais je regarde ça avec sympathie. Quand le Québec domine quelque part, j'en suis très heureux.
Est-ce que tu as regardé 5 chefs hier?
Bien sûr, je suis en décalage, mais j'ai regardé. Et je t'avouerai que... Alors, c'est fascinant parce que c'est Radio-Canada pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce que c'est d'immenses moyens qui sont mobilisés, donc ça fait des émissions qui sont de qualité en tant que telles, ne serait-ce que sur le plan technique, mais il manquait la part la plus importante dans un tel événement, c'est le débat. Sauf pour Duhem, si je peux me permettre, parce que là, on était de fond sur le mode de l'interrogatoire classique avec des journalistes en surplomb et des politiques devant se justifier d'exister. Mais Duhem, je note que peu importe où il passe, il est toujours dans une autre situation, il est sur le mode de l'accusation. C'est-à-dire, c'est comme si c'était une présence si légitime dans cette élection. Ça sera probablement derrière lui une fois qu'il aura remporté plusieurs sièges. Ensuite, on va continuer de le traiter comme un malpropre, comme quelqu'un qui était légitime.
C'est un intrus dans le débat.
En fait, c'est un double. Dans ce paysage, il y a deux intrus. Il y a Duhem qui remet en question le modèle québécois tel qu'on l'a connu, tel qu'il est épuisé, mais tel qu'il coagule encore des intérêts qui sont bien réels, qui se défendent à tout prix. Puis il y a PSPP qui remet en question l'interdit autour de la question de l'immigration, qui remet en question l'interdit autour du multiculturalisme canadien, qui se permet autrement dit de toucher à ces questions-là. Il y a la préférée du moment, c'est Mme Fréchette. Il y a une forme de discours médiatique dominant qui cherche à la porter jusqu'au bout. Il y a Milliard qui n'était pas si mauvais, franchement. Il faut dire qu'il partait de zéro. Donc, quand tu parles de zéro et tu es rendu à un, tu as déjà occupé un peu de terrain. Puis il y avait Mme Gazal qui est un peu le personnage secondaire. Donc, ça, c'est quelqu'un du midget qui jouait dans la Ligue nationale hier soir. C'est permis, mais en dernière instance, on sait que c'est pas sa Ligue.
C'est une figurante dans un film, là. Tu sais, la personne qui prend un café dans le fin fond, là, tu as la misère à la reconnaître, c'est elle, dans le
oui,
film.
Oui, mais qui veut à tout prix devenir un rôle secondaire, qui y parvient plus ou moins, mais en dernière instance, on se demande c'était qui.
Du mépris également, surtout du côté de Castonguay qui lui dit à Duhem, moi j'en fais de la radio et il ne faut pas faire ça à la radio alors qu'on ressort encore une fois un vieil extrait de Duhem comme on a fait avec Gary Epi en d'autres circonstances pour faire la leçon à Duhem en lui disant t'as pas été gentil, est-ce que tu continuerais de t'excuser pour le bon plaisir de l'auditoire?
Ben, en fait, le rituel pour Duhem, ce qu'on voudrait dans le système médiatique, c'est qu'il multiplie les génuflexions et les excuses jusqu'à dire qu'il n'est plus du tout ce qu'il était auparavant. Alors qu'il y ait eu des excès stylistiques chez Duhem, qu'on dise ce qu'on veut, peut-être, pourquoi pas, mais ce qu'on veut derrière la critique des excès stylistiques, c'est le procès de sa ligne idéologique. On voudrait avoir chez lui une droite qui ne soit pas une droite, une droite qui soit simplement une gauche pâle, une gauche molle, une gauche au ralenti. Ça, c'est la droite tolérée dans le système médiatique. Et là, Duhaime, il dit non, 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 moi, je suis sur une ligne clairement conservatrice, et ça, c'est vu comme une position illégitime dans le système médiatique. C'est assez fascinant. Par ailleurs, pour ce qui est des propos qu'on peut retenir à propos de différents animateurs, des journalistes, des présentateurs, franchement, il y en a une bonne liste pour chacun. On a décidé de retenir ceux de Duhaime au fil du temps, très bien. Bien, franchement, moi, pour être quand même assez familier des médias québécois, je pense que des gens ont dit bien des choses au fil du temps, mais ils ont le privilège de l'oubli. On n'accorde pas ce privilège-là d'oubli à Éric Duhaime. Me semble-t-il qu'on devrait le juger sur ses positions politiques, mais c'est une étrange élection où on juge peu les gens sur leur position politique. Madame Fréchette, on la juge sur sa prétention à devenir le capitaine Canada-Québec. Le Parti québécois, on est sur l'arrière-pensée, l'arrière-fond, a-t-il des mauvaises idées au fond de lui-même? Et puis dans le cas de Duhaime, encore une fois, c'est le procès de l'illégitimité. Donc voilà pourquoi moi, j'ai surtout hâte à la confrontation, je pense que c'est mardi, oui. Face à face. Oui. Bon, ça va être intéressant, parce que là, ils se confrontent. Donc là, c'est l'occasion de ne pas laisser quelqu'un se dérober. C'est l'occasion de dire, vous avez dit, et c'est pas seulement les questions qui intéressent les journalistes, c'est les questions qui intéressent les politiques, qui intéressent la population. Donc ça va être pas... Ça, je crois que ça va valoir la peine. Mais moi, je suis convaincu d'une chose. La question de l'immigration, elle s'est glissée dans cette campagne au début, quand on a vu, je pense, devant l'école Roger Comtois, si je me trompe pas.
Oui.
Elle ne peut que prendre davantage de place parce que c'est la variable qui structure tout le reste au Québec aujourd'hui. Oui. Quand on parle de crise du logement, quand on parle de crise dans les écoles, quand tout ça est... Je ne sais pas que ça ne s'explique que par l'immigration, bien sûr que non, mais c'est le facteur amplifiant qui fait en sorte que si on décide de le dégager du portrait, eh bien, on décide de bannir le réel du portrait.
Est-ce que le PQ doit piquer davantage? Est-ce que... Un gars comme Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a fait ce point de presse-là dont tu décris, la teneur en avant de l'école à Québec, est-ce qu'il doit davantage frapper là-dessus? Je trouve qu'il s'est esquivé. Il a fait le point de presse, oui, des bons graphiques, etc. Mais je trouve que ce n'a pas été au menu du jour. Ça devrait être un élément essentiel du menu du jour pour forcer justement la note et la couverture médiatique et les questions de journalistes et comment je pourrais dire ça, dont le déroulement, forcer le déroulement de cette campagne-là et de forcer les autres chefs à se positionner également.
C'est pour ça que je te dis que j'attends le face-à-face. Moi, ce que je vois, c'est que les médias ne veulent parler d'immigration que pour dire qu'on ne doit pas parler d'immigration.
Comme hier.
C'est-à-dire, on doit en parler... Oui, voilà. C'est un sujet illégitime et on accepte d'en parler à condition que vous repreniez le discours obligé, que vous repreniez les prières du régime. PSTP ne fait pas ça. Mais vu la manière dont la campagne se joue pour l'instant, où on cherche à tout ramener ça à la question Trump, eh bien la question de l'immigration ne parvient pas à prendre sa place. Or, s'il y a une question, puis ça là-dessus je me réfère encore une fois, on a parlé la semaine dernière à Frédéric Lacroix, qui la documente chaque jour, s'il y a une question qui a pris une place centrale dans notre société depuis quelques années, c'est celle-là. Donc moi je m'attends, on verra bien, on prend, et ensuite les politiques, c'est le privilège d'être un commentateur ou un chroniqueur, c'est qu'on ne parle qu'à partir de ses convictions. Le politique, lui, doit tenir compte des équilibres, des intérêts, de l'actualité qui dépasse ses simples réflexions personnelles. Mais je ne doute pas que plus le Parti québécois va parler de manière décomplexée sur cette question, et plus la population va l'entendre. Quand Dumont, en 2007, a parlé de désaccommodement raisonnable, tout le système y est tombé sa tomate. Mais il a quand même réussi à faire une percée formidable. En 2018, quand Legault a osé parler de ça clairement, c'est là-dessus qu'il a gagné l'élection contre Couillard. C'était pas certain du tout qu'il allait gagner l'élection. C'est là-dessus qu'il l'a gagné. Moi, je pense que c'est un thème qui... Il est gagnant pas par démagogie. Il est gagnant parce qu'il est fondamental, irrefoulé et étouffé. Mais ça, je pense que c'est le sujet qui va s'imposer tôt ou tard pour peu qu'on réussisse à détrumpiser un peu la campagne. On y parvient. Ils font tout pour la trumpiser à l'extrême. Mais bon, pour l'instant... Surtout, j'ajouterais que je pense que Mme Fréchette, moi, ça me frappe. Le système la portait vraiment. Mais là, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, que son image s'affadit. C'est comme si la comédie est désormais dévoilée. Tout le monde a compris ce qui s'est passé avec le Conseil des ministres. Tout le monde a vu que c'est une blague. Oh, excuse-moi, vas-y.
Bien, c'est ça. Bien, elle a dit, elle a menti également en prétendant qu'elle avait réussi à avoir des accommodements dans la position fédérale. Que oui, j'ai parlé à Carney et on va éviter dans la vague de contre-tarifs tel truc québécois pour justement éviter les dommages accrus à l'économie québécoise, ce qui est complètement faux. C'est faux. Elle a menti à cet effet-là.
Deux fois. Premièrement, elle a menti sur ce thème-là. Ensuite, elle a dit quand qu'elle prétendait qu'elle était au courant, c'est quand elle fait semblant de nous dire « Moi, j'ai tenu tête à Carney, à Trump ». Ça ne veut rien du tout. Encore devrait-elle tenir tête à Carney, mais ça, elle n'y parvient pas. Donc, moi, quelqu'un qui ment une fois, j'entends, c'est une ruse en politique, quelqu'un qui ment deux fois sur le même sujet, je ne sais plus c'est quoi le terme qu'on peut utiliser pour qualifier ces gens-là. Mais quand, tu sais, en politique, je ne m'attends pas à être devant la transparence absolue. Je ne crois pas qu'un seul politique est un être de pure vérité. Ce n'est pas dans leur définition de tâche. Mais le mensonge à répétition, ça commence à abîmer la réputation de quelqu'un. Et je pense que la réputation de Mme Fréchette aujourd'hui est abîmée. On a cherché à tout prix à nous imposer un produit de communication. Et ce produit de communication, ce produit marketing aujourd'hui, on se rend compte qu'il se décompose peu à peu sous nos yeux. Il ne s'effondre pas parce que le système est fort, mais il se décompose sous nos yeux.
Olivier Primo, t'en dis quoi? Là, il semble y avoir une stratégie à deux volets, c'est-à-dire plaire à mon oncle, ma tante et leur faire peur au départ. Je pense que ça a été assez marqué de la part de Fréchette.
Ouais.
Mais aujourd'hui commence la tournée Primo. Je l'ai en entrevue préenregistrée cet après-midi. Ça sera diffusé demain dans Morel Live. Qu'est-ce qui t'interpelle dans cet usage-là? Parce qu'on l'utilise, clairement.
Ouais.
Il a un mobile avec les couleurs de la CAQ dessus. Là. Donc, c'est devenu un genre de mascotte, là.
Oui, je trouve que c'est un personnage assez secondaire. Déjà, c'est un personnage assez secondaire qu'on a été chercher à un moment où on ne croyait pas que la campagne serait dominée par les tarifs. Là, aujourd'hui, c'est un personnage qui est convaincu de sa propre importance. Il voulait être chef de la CAQ au moment où la CAQ était au pouvoir. Donc, il s'est vu premier ministre ces derniers mois, lui. C'est pas un détail. Ensuite, aujourd'hui, il se voit comme le facteur déterminant qui va faire tomber l'élection d'un côté comme de plutôt que l'autre. Il se voit comme l'entrepreneur avec succès qui impressionnerait tous les Québécois. Je ne doute pas que c'est un homme de talent. Je ne doute pas que c'est un homme sympathique. Il m'a l'air intellectuellement et politiquement confus et surtout certain de sa propre importance. Alors, je ne compte pas son écho sur les réseaux sociaux, mais je dis quand on creuse un peu sa pensée, on a l'impression d'être devant une mine de contradictions. Donc les contradictions s'accumulent les unes les autres. Certains nomment cela complexité. Moi, j'appelle ça mélanger dans sa tête. Donc, puis en plus, il y a quelque chose d'un peu bizarre chez lui parce que c'est le type de helper qui pourrait théoriquement aller rejoindre un électorat qui était plutôt conservateur peut-être avec son discours économique, mais qui dans les faits va plutôt se tourner au service de la CAQ. Donc j'ai plutôt l'impression qu'il va s'auto-neutraliser dans la campagne et surtout ça va être un personnage assez mineur. Il se voyait comme un personnage majeur. C'est un personnage mineur qui n'est pas sans intérêt personnel, qui n'est pas sans valeur personnelle, mais je pense que ça va être une nouvelle assez brève dans la campagne.
Quelqu'un qui veut beaucoup se donner de l'importance à plusieurs moments durant une année politique. Ben, c'est Bruno Marchand. On ne parle pas assez de lui, donc il veut faire parler de lui-même. Cette fois-là, c'est la diabolisation par personne interposée de Radio X. Ça, c'est déjà assez diabolisé dans sa tête, mais de Duhaime. Duhaime parle à Radio X. Radio X parle à Lachance. Stéphane Lachance, qui est le chef de l'opposition, ancien candidat au demeurant du Parti conservateur du Québec. Et Duhaime parle à Lachance. Donc, c'est vraiment un dangereux triangle des Bermudes. Et je vais te faire jouer un extrait. Ça nous rappelle, et là, il y a comme un message subliminal là-dedans, ce qui est en train de se passer en Europe et en France, dit l'extrême droite. Je te fais entendre.
Oh non, ils dansent avec le respect citoyen. Ils dansent ensemble. Ça ressemble à la France, ça ressemble à l'Europe. Les partis sont des succursales les uns des autres et militent l'un pour l'autre avec les élections. Le respect citoyen et le PCQ ont décidé de travailler main dans la main et d'être un seul parti.
Donc voilà, main dans la main et avec le message subliminal, c'est mal, c'est le démon, faites bien, bien attention.
Ouais, mais franchement, moi, les espèces de campagne de factionnalisation des contradicteurs au Québec, ça devient assez lassant. Déjà que c'est lassant ailleurs dans le monde, mais s'il y a un endroit au Québec qui est à peu près immunisé qu'on serait la possibilité du fascisme, c'est même le Québec. Hein. Donc ça, faut quand même arrêter. Puis par ailleurs, ce qui se passe en Europe, c'est pas je ne sais quelle vague fasciste qui emporterait tout le continent européen. C'est le constat que le modèle de société qu'on a imposé depuis 40 ans, 50 ans, l'immigration massive, le multiculturalisme à tout prix, la censure de la liberté d'expression, la sociale bureaucratie qui écrase tout, qui écrase l'économie de marché, qui écrase la liberté des entreprises. Ce modèle-là est en train de faire faillite devant tout le monde. Donc, il y a des forces politiques nouvelles qui n'appartiennent pas au système qui émergent pour être capables de relayer ça. On peut apprécier certaines de ces forces, on peut en critiquer d'autres, on peut apprécier certains leaders, on peut ne pas apprécier d'autres, mais nous dire, faire un espèce de procès très rapide de ce qui se passe en Europe à la manière de M. Marchand, j'ai l'impression qu'il devrait d'abord connaître sa ville avant de prétendre connaître le continent européen.
Qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne? On lit, on comprend des choses, mais en même temps, il faut se méfier de la couverture. Toi, tu y es. Je veux entendre ton analyse et ton regard de ça en terminant, Mathieu.
Ah. Alors, c'est assez simple, en fait. L'Allemagne, l'AFD, le parti dont on parle, est créé en 2013, je ne me trompe pas, au moment de la crise de l'euro, pour faire le procès de l'euro et du fait que l'Allemagne serait spoliée par le système européen. On peut être en désaccord, soit dit en passant, mais bon, c'est le point de départ. Ensuite, c'est un parti qui connaît une véritable croissance à partir de 2015, au moment de la crise migratoire. Et au moment de la crise migratoire, tous les partis en Allemagne, globalement, notamment Mme Merkel, sont favorables à l'arrivée d'un million au moins d'immigrés dans le cadre de la crise migratoire. Et l'AFD va croître en étant le seul parti qui s'oppose à cela. L'AFD croît surtout en Allemagne de l'Est, mais perce aussi en Allemagne de l'Ouest aujourd'hui, si on reprend les vieilles catégories, et c'est devenu le vecteur d'une forme de révolte populiste et conservatrice en Allemagne. On peut être en désaccord avec ce parti, on peut se trouver plein de choses, mais quand on décide de le ramener à 1945, comme si on était condamné à vivre dans le loop temporel, dans la boucle temporelle, toujours revivre l'histoire de « ce sont des nazis, ce sont des nazis, ce sont des nazis », c'est absurde. Alice Weidel, qui est la patronne du parti, se dit libertarienne. Si je peux me permettre, des libertariens, c'est assez loin des totalitaires, par définition. Elle-même dit, elle se veut, par définition, elle dit Hitler est une horreur dans notre histoire. Elle ajoute que la Shoah est une catastrophe absolue dans l'histoire du monde. Donc ensuite, on peut être complètement en désaccord avec les politiques de l'AFD, la question n'est pas là. Mais nous ne sommes pas en 33-45. Il faut arrêter de croire qu'on est enfermé dans cette seule séquence historique et temporelle. Par ailleurs, la vague dite populiste ou identitaire en Europe dépasse largement l'Allemagne. Il ne nous est pas interdit de chercher à la comprendre plutôt que de la maudire.
Mathieu, merci.
Au grand plaisir. Bye
Au
bye.
Grand plaisir. Bye-bye. La semaine prochaine, on va y parler. Puis il y aura déjà deux débats. Le premier débat, Dan, est-ce que c'est Radcan? Je sais qu'il y en a un à Crave dans le milieu. Crave nouveau. C'est un peu particulier.
Oui, mais c'est
vrai que... Oui, mais c'est nouveau. Là. Je veux dire, nouveau, c'est nouveau que ça soit nouveau. Non, mais c'est à Crave. C'est quand même spécial. Là. C'est nouveau. Là. Je regarde Crave, le débat. C'est une première dans l'histoire du Québec, là, que ça soit en streaming. Mais pour les gens qui ont le câble, ben, ça sera nouveau. Puis il y a TVA et Radcan. Je veux juste savoir si tu es Radcan en premier ou c'est TVA.
Je viens de demander à Gemini. Le 15 septembre, face à face de TVA. 16 septembre, débat de nouveau. Et le 23 septembre, c'est le débat des chefs de Radio-Canada.
OK. Petite pause. Et le très méchant Steph Lachance, qui fait partie du triangle des Bermudes de l'horreur de la droite, vient s'asseoir avec nous.
Morais. Live.
Extraordinaire.
Radio.
Si je peux dire comme ça.
Hic.